Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore heureux. Une fois n'est pas coutume, commençons par la fin. Françoise Sagan repose au cimetière de Seuzac, en pleine campagne, dans le Lot, son pays natal. Sur sa tombe sont inscrits son nom et deux dates, 1935-2004, auxquelles il faudrait ajouter 1954, l'année de son entrée fracassante en littérature. Quelques années avant sa mort, l'écrivaine avait rédigé son épitaphe.
Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, « Bonjour Tristesse », qui fut un scandale mondial. Sa disparition après une vie et une œuvre également agréables et bâclées ne fut un scandale que pour elle-même.
Françoise Sagan a 19 ans quand paraît « Bonjour Tristesse ». Son roman fait scandale parce qu'il aborde la sexualité féminine dans un style désinvolte et incisif. Françoise Sagan, de son vrai nom Françoise Quarez, jusque-là totalement anonyme, devient alors mondialement connue.
En fait, j'ai été très surprise de la réaction que ce livre a suscitée. Pour les trois quarts des gens, le scandale de ce roman, c'était qu'une jeune femme puisse coucher avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier. Pour moi, le scandale dans cette histoire, c'était qu'un personnage puisse amener par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer.
La jeune femme a écrit un best-seller mondial, et c'est le début pour elle d'une course folle. Elle veut goûter à toutes les émotions, à tous les plaisirs de la vie. Le petit monstre, comme l'avait surnommé François Mauriac, a le frisson de la vitesse. Dans son recueil, « Avec mon meilleur souvenir », publié en 1984, elle écrit
« Qui n'a jamais aimé la vitesse n'a jamais aimé la vie, ou alors peut-être n'a jamais aimé personne ». La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur.
La vitesse. Françoise Sagan n'a cessé de l'apprivoiser, de l'affronter dans une sorte de face-à-face. Rares sont les auteurs qui ont peint avec autant d'exactitude ce corps à corps avec la machine.
D'abord, il y a dehors cet animal de fer apparemment assoupi, tranquille, que l'on réveille d'un tour de clé enchanteur. Cet animal qui tousse, à qui l'on laisse reprendre, comme à un ami réveillé trop vite, son souffle, sa voix. Cet engin peu à peu réchauffé, bien dans sa peau, lentement excité.
En 1954, Françoise Sagan profite de ses premiers droits d'auteur pour acheter une Jaguar. Elle adore conduire pieds nus et cheveux au vent. Elle roule vite, trop vite. Elle partage des jeux dangereux avec son frère. Ils s'amusent à se lancer l'un contre l'autre à toute vitesse, place Saint-Sulpice, pour ne s'arrêter qu'au dernier moment. Après la Jaguar, suivront d'autres voitures d'exception, une Gordini, une Buick et une AC Cobra, jusqu'à la fameuse Aston Martin dans laquelle elle frôlera la mort le 14 avril 1957. Contrainte de freiner brutalement alors qu'elle conduit à 160 km/h, elle perd le contrôle avant de s'écraser dans un champ de blé. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Les secours mettent 2 heures pour la sortir de sa voiture. Elle est si grièvement blessée qu'un prêtre est appelé sur les lieux de l'accident pour lui administrer les derniers sacrements. Elle souffre de multiples fractures du crâne, du thorax, du bassin. Pour atténuer la douleur, durant 3 mois, on lui administre du palfium 875, un dérivé de la morphine, dont elle va devenir très vite dépendante. Jamais plus elle ne pourra se passer de drogue. Ces drogues, qui, conjuguées à l'alcool, vont peu à peu ruiner sa santé. Ses passagers, eux, s'en tirent avec de légères blessures. À sa sortie de l'hôpital, Sagan entame une cure de désintoxication. Elle en fera un journal, Toxique, qui paraîtra en 1964. Sagan s'observe et s'analyse. Et ce face-à-face avec elle-même la conduit à un constat amer. Elle ne s'aime pas. Cette première cure de désintoxication est un échec. Elle se remet à boire, ce qui lui provoque une polynévrite qui la fait atrocement souffrir. Désormais, la jeune femme libre est devenue dépendante des médicaments, de l'alcool et des drogues.
La seule chose que je trouve convenable, si on veut échapper à la vie de manière un peu intelligente, c'est l'opium. Il semble que l'on pourrait m'attribuer la médaille de la désintoxication. Tout le monde vante mon courage, je souris avec béatitude et impossible de dormir. Je suis bourré de soporifique et ne ferme pas l'œil. Un peu le même effet que lorsqu'on ne dort pas du tout. Pas très agréable, ni le contraire. La tête qui tourne, la démarche oscillante, un creux à l'estomac et ses vertes pelouses. J'exerce les gazons. Plus jamais je ne verrai l'herbe. Je n'irai pas en Angleterre. Quand aurais-je donc la force de conduire une Aston, de prendre la porte-maillot un peu vite? Les rues, les places sont autant de regrets. Ce capot noir qui s'élançait, ce bruit confiant, amical, Jaguar un peu longue, Aston un peu lourde, je m'ennuie de vous à périr, après avoir failli périr par vous.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Françoise Sagan, femme d'excès, la vitesse, la drogue, mais aussi l'argent. La romancière dépense sans compter et sera même accusée de fraude fiscale. Elle perd des fortunes au jeu, l'une de ses grandes passions. Elle vit dans l'instant, sans limite, sans mesure, mais avec style. Elle incarne une certaine élégance, une certaine modernité. On la surnomme la Mademoiselle Chanel de la littérature.
J'ai su à la première seconde, à la première donne que j'aimais le jeu. Cela ne s'explique pas. Il y a des gens qui adorent escalader des pics, il y a des gens qui ne se sentent bien qu'au fond de la mer, il y a des gens qui ne peuvent aimer un être que si cet être les fait souffrir à mort, il y a des gens qui aiment jouer. On peut perdre la vie ou son équilibre mental ou sa fortune dans ses facéties, au choix.
Qu'est-ce qui vous fait aimer ça, justement ?
C'est aussi inexplicable que si vous me demandiez pourquoi j'aime les escargots à l'ail. Je n'aime pas les escargots à l'ail, mais c'est aussi fou. Une passion.
Ça ne s'explique pas, ça.
Non. Le fait de jouer me rend très gai.
Vous fuyez quelque chose à travers le jeu.
Non, je ne fuis pas. Je retrouve quelque chose de très gai, qui est la liberté. La liberté d'être brusquement fauché à mort en 4 heures.
Rien ne va plus.
Vous jouez au casino pour rétablir un équilibre financier. Donc
non, pas pour rétablir ou pour l'équilibrer, en tout cas pour le provoquer.
Écoutez, François Sagan, vous n'allez pas me dire que vous jouez pour gagner de l'argent, c'est pas vrai?
Tous les joueurs jouent pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous croyez?
Et quand vous en perdez, avec quoi?
Il y a des fois où ça ne m'arrange pas du tout.
Ah oui, parce qu'il n'était pas là.
La vitesse, le jeu, la drogue, les boîtes de nuit, l'alcool, mais aussi la liberté. Farouche. Écoutons-la de nouveau, on est en 65, Sagan a 30 ans.
J'en sais rien, je peux très bien mener une vie instable dans 2 ans, je ne sais pas du tout. Je n'ai ni aucun projet, ni aucun plan dans la vie. Les choses arrivent, se passent, repartent. Je ne suis pas quelqu'un qui a des pronostics sur lui-même.
Vous essayez tout de même de construire votre existence. Vous savez que vous devez écrire, que vous devez faire une pièce de théâtre.
Pas du tout. J'aime écrire, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voir mon fils, j'ai envie de partir, j'ai envie de rentrer. Je n'ai pas de plan, enfin, je ne prends pas de décision.
Et rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire?
Non, personne ni rien.
C'est cette liberté alors qui fait peut-être que Jean-Paul Sartre vous estime tant. Est-ce que c'est une liberté morale ou une liberté philosophique?
Je ne sais pas s'il m'estime tant, je crois qu'il m'aime bien comme ça, comme quelqu'un pour déjeuner ou dîner. Hein.
Non, je crois que c'est davantage.
Enfin, je ne sais pas, ça, vous lui demandez, mais... Mais effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant, oui.
Non, je vous ai dit, je n'ai pas dit indépendant, j'ai dit liberté. Est-ce que cette liberté est une liberté au fond de vous-même ou est-ce que c'est une liberté quotidienne que vous avez tous les jours?
Il y a une très bonne phrase de Sartre qui dit justement que la liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, comme les gens disent, c'est plus subtil, c'est vouloir ce que l'on peut. effectivement, ce que je peux faire, je le veux. C'est-à-dire, j'ai envie de faire les choses que je peux faire. En ce sens-là, je suis libre.
Et cette liberté vous conduit tout de même à écrire et
oui,
à vous renouveler.
J'aime écrire.
Vous aimez toujours beaucoup écrire ?
J'aime toujours beaucoup écrire.
En 1958, Françoise Sagan épouse l'éditeur Guy Scheller, de 20 ans son aîné, qui la protège depuis de nombreuses années comme un père. Elle en divorce en 1960, pour se marier 2 ans plus tard avec un mannequin américain, Robert Westhoff. Elle donne naissance à un fils, Denis, en 1962.
Quand on me l'a mis dans les bras, j'ai eu une impression d'extravagante euphorie. Je sais ce que c'est d'être un arbre avec une nouvelle branche. C'est d'avoir un enfant.
Le couple se sépare définitivement 10 ans plus tard, en 1972. Françoise Sagan parlait de ses excès, du jeu, de la drogue, de la vitesse. Mais elle cachait soigneusement sa bisexualité. Et pourtant, les histoires d'amour qui comptent dans sa vie sont féminines. Son grand amour, c'est la styliste Peggy Roche, ancienne journaliste de mode et ex-épouse de l'acteur Claude Brasseur. Elle restera auprès de Sagan jusqu'à sa mort, en 1991. Sagan ne s'aimait pas, et pour cette raison avait horreur de la solitude. Elle a vécu entourée d'un petit cercle d'intimes, dont Jacques Chazot faisait partie, tout comme Juliette Gréco. Elle gagne beaucoup d'argent, se montre très généreuse, mais l'argent lui brûle les doigts, elle le distribue comme ses vêtements, ses bijoux et même ses manuscrits.
Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Sagan, c'est une 20aine de romans, 30 millions de livres vendus en France et de nombreuses traductions. Ses thèmes favoris, la vie facile, les voitures rapides, les villas bourgeoises, le soleil, un mélange de cynisme, de sensualité, d'indifférence et d'oisiveté. Sa passion pour l'écriture est toujours présente, toujours là. C'est elle qui la tient debout.
Écrire est la seule vérification que j'ai de moi-même. J'ai toujours l'impression d'aller à un échec relatif. C'est à la fois fichu et gagné, désespérant et excitant.
Elle publie régulièrement, connaît de grands succès de librairie malgré la critique, agacée par sa désinvolture. La Chamade paraît en 1965, Un peu de soleil dans l'eau froide en 1969, Des bleus à l'âme en 1972. Si sa préférence va au roman, le théâtre tient également une place importante dans son œuvre. Mais le succès ne sera pas toujours au rendez-vous. Elle écrit aussi des nouvelles, dont « Des yeux de soie » publié en 1975, recueil de 19 récits légers et graves sur le thème cher à Sagan de la rupture. Elle écrit des scénarios, des biographies, des fragments d'autobiographie et même des chansons pour Juliette Gréco.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre ou une pièce de théâtre qui soit vraiment très éloignée de vos préoccupations, de vos inquiétudes ?
Sûrement pas. Pourquoi le ferais-je ?
Pour essayer de faire autre chose.
Mais ça veut dire quoi, faire autre chose? Faire autre chose, c'est faire quelque chose, ça veut dire parler avec une certaine chaleur d'un sujet qui vous intéresse. Pour moi, en littérature, c'est ça, c'est parler avec passion d'une chose qui vous passionne et en essayant de garder, si possible, un certain ton. Bon, alors, je pourrais garder le ton et parler avec style d'une chose qui m'ennuie. Le livre serait forcément ennuyeux. Et pour moi, écrire, et j'imagine pour les gens à lire.
On a l'impression aussi à lire le livre qu'il est particulièrement bien écrit sur le plan grammatical.
Oh, ben ça, je me suis donné beaucoup de mal à ce sujet. J'ai vécu dans les grammaires pendant quelques jours.
Pourquoi tout d'un coup? Parce que vous saviez quand vous avez reproché peut-être...
Parce qu'on me reprochait beaucoup de bâcler mes livres et effectivement j'en ai bâclé pas mal.
Et pourquoi vous les aviez bâclés?
Par paresse.
C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain.
Je sais, mais je suis quelqu'un de sérieusement paresseux.
Et tout d'un coup, vous ne l'êtes plus?
Si, je me suis forcée.
Alors, vous allez continuer dans cette voie?
Je ne sais pas dans quel état d'esprit, de paresse ou d'activité je serai quand j'aurai fini mon prochain livre. Peut-être qu'il sera bâclé, peut-être qu'il sera très, 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 très grammatical.
La première page de Bonjour Tristesse n'est pas très, très, très grammaticale. Elle commence par un vers de Paul Éluard.
Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités. Et, à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les 6 mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas le meilleur ami, ni le plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager, car je savais son besoin des femmes et que d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué, sur la Méditerranée, une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire dominant la mer, cachée de la route par un bois de pins. Un chemin de chèvre descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa, qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac, incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés, pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts, en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile, et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été.
Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
En juillet 84, Françoise Sagan est interviewée à propos de son dernier livre, Avec mon meilleur souvenir. Le journaliste Daniel Bilalian lui demande « Si vous pouviez recommencer votre vie, quelle passion choisiriez-vous ? L'amour du jeu, l'amour de la vitesse ?» Et Sagan répond bien sûr « La littérature ».
Dans ce livre, Françoise Sagan, on a le sentiment que vous êtes à différents moments de votre vie engagé dans différentes vies possibles et que vous y avez non pas renoncé, mais que vous avez changé, vous avez dérivé à plusieurs moments. Si vous aviez à revivre une des vies qui font les chapitres, est-ce que vous choisiriez par exemple aujourd'hui d'être simplement une joueuse, d'être une amateur de vitesse quel est le chapitre que vous aimez le plus?
Ouh là là, c'est difficile, hein. C'est difficile de choisir entre ses passions, entre ses goûts. On ne peut pas imaginer qu'on soit uniquement centré sur une chose, on serait monolithique, on serait quelqu'un d'un petit peu monstrueux. Je veux dire, qu'est-ce qui me manquerait le plus?
Oui, qu'est-ce qui vous manque le plus des choses que vous avez faites et abandonnées aujourd'hui? Ou celles que vous avez appréciées le plus?
Pour la vérité, je n'ai pas tellement abandonné jusqu'ici.
Vous les avez toutes abandonnées.
Oui, les choses... Il y a des gens qui m'ont abandonné parce qu'ils sont morts. Ça, c'est beaucoup plus triste. Mais je crois que la chose qui me manquerait le plus... Bien entendu, c'est les livres quand même.
C'est le fait d'écrire.
Oui.
Aujourd'hui. Et vous en parlez de cette passion d'écrire. Vous parlez par exemple, sans, sans vergogne, vous parlez de vos adaptations au théâtre, par exemple. Vous parlez du théâtre et vous parlez, alors, contrairement à beaucoup d'écrivains, vous parlez là, en toute franchise, de vos échecs au théâtre.
Les échecs sont beaucoup plus amusants, enfin, après, sont beaucoup plus amusants que les succès, parce que quand on a un succès au théâtre, tout le monde va vous féliciter, alors on va prendre l'air modeste et dire « Non, c'est pas moi, c'est le metteur en scène, c'est grâce aux acteurs, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. » Enfin, on prend des airs, vous voyez, pieux et confits. C'est-à-dire, quand on a l'échec, d'une part, il y a pas mal de gens qui sont assez contents que vous ayez un échec et qui viennent vous serrer la main, genre de dire... Alors là, au contraire, il faut prendre l'air, on est obligé de prendre l'air, même vis-à-vis des acteurs qui sont souvent en larmes, qui prennent... « Oh, bon, c'est pas grave, il y a des choses plus tragiques. » C'est beaucoup plus grave à Beyrouth, bon, un échec de passé, 10 succès de revenus, enfin, on est obligé de parader, et le fait de parader finit par vous rendre l'âme paradeuse.
Merci Françoise Sagan. Je rappelle le titre de ce livre qui vient de sortir aux éditions Gallimard, avec mon meilleur souvenir.
Françoise Sagan meurt à 69 ans, le 24 septembre 2004, à Honfleur, d'une embolie pulmonaire. Dans un communiqué, Jacques Lang rend hommage à son talent. Il déclare « Nous pleurons aujourd'hui l'écrivain qui a marqué de son talent vif et ardent la littérature contemporaine et a longtemps incarné dans le monde une France de la vie et du mouvement. » Bertrand Delanoë salue son immense talent. Elle nous lègue à la fois le souvenir de la force, de ses goûts et la douceur de ce certain sourire caché comme par timidité mais dévoilé dans ses écrits. Trace essentielle de son immense talent. En cet instant si sombre, son premier titre nous revient comme un écho. Bonjour tristesse. Dans Le Dauphiné libéré, notre ami Didier Paubel écrit « La jeunesse d'avant 68 avait besoin d'un vadémécum. La rebelle à la coiffure de Beatle blond tombait à pic. Elle devient une sorte d'icône moderne, la femme de toutes les audaces, de tous les excès aussi, alcool, vitesse, casino. On la lut un peu moins. On la vit beaucoup dans les magazines. À la télévision, elle bafouillait délicieusement, l'index vrillé vers son œil, la cigarette pointée, comme une arme douce. » Amis auditeurs, merci pour votre écoute. Prenez émission de Encore Heureux, mercredi 11 juillet. Pour cette ultime édition avant l'été, j'ai choisi de vous lire une nouvelle de la romancière et nouvelliste Véronique Bizot, extraite de son recueil « Les jardiniers », paru chez Actes Sud en 2008. Cette nouvelle s'intitule sobrement « L'hôtel ». Elle est drôle, décalée, profonde, étrange, impeccablement déréglée, sur le fil de la dinguerie et de l'absurde comme on les aime. Rendez-vous donc le 11 juillet à 14h pour en savourer l'ambiance à la fois déroutante et délectable. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand bon vous semble toutes les émissions en podcast sur le site de Radio B. Un grand merci à Annie et à Pauline. À très bientôt sur Radio B.
Write my number down, just as